Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale d'ONU Info Genève. La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents. Cette citation est de Léopold Sédar Senghor, poète et premier président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, le français est en pleine expansion, présent sur tous les continents. Plus de 300 millions de personnes le parlent. Et selon certaines projections, il pourrait devenir la troisième langue du monde d'ici 2050. Le français est aussi, avec l'anglais, une des deux langues de travail des Nations Unies. Pourtant, force est de constater que son usage semble se réduire d'année en année au sein des enceintes internationales, au profit de la langue de Shakespeare. Alors, le français au sein des Nations Unies est-il condamné à perdre son statut privilégié? Qu'apporte son usage au sein des organisations internationales? Et quelle est l'influence de la francophonie sur la scène internationale? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir M. François Rivasseau, l'ambassadeur représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève, M. Georges Naxung-Gefang, représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, et Mme Fabienne Perron, responsable du programme de formation linguistique au Centre de formation et de multilinguisme de l'ONU à Genève. Bonjour à vous trois, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le thème de cette émission, c'est l'usage et la place du français dans les organisations internationales. La question se pose car durant de grandes réunions comme le Conseil des droits de l'homme, on entend de moins en moins parler français et de nombreux délégués de pays qui ont pourtant comme langue officielle le français s'expriment dans une autre langue. Qu'en pensez-vous, Monsieur Naxung-Gefang?
Vous parlez du Conseil des droits de l'homme qui est un cadre approprié, l'expression démocratique au plan international. Donc, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de démocratie, on parle également d'une compétition constructive d'idées. Donc, lorsque on est appelé à s'exprimer, lorsqu'on s'exprime dans sa langue, il y a plus de chances de se faire comprendre, il y a plus de chances de faire passer, n'est-ce pas, les arguments qu'on porte, parce que, comme vous le savez, une langue, à travers ses locuteurs, c'est également, n'est-ce pas, une perception du monde, une perception des problèmes et une contribution avec, comme je le disais, des arguments qui équivalent par rapport, n'est-ce pas, à un problème donné.
Alors l'utilisation des langues, ce n'est pas juste une question d'organisation ou de logistique. Il y avait évidemment aussi des enjeux diplomatiques. Est-ce un problème, M. Rivasseau, si une langue, l'anglais pour ne pas la citer, devient hégémonique au sein des organisations internationales?
Oui, c'est un problème, évidemment. Parce que le multilinguisme, c'est l'un des piliers du système multilatéral, c'est un élément fondamental, très imparfait bien sûr, mais fondamental de démocratie. La francophonie, c'est 300 millions de personnes qui partagent une langue commune et qui donc partagent aussi une forme de culture commune. Et la francophonie et le multilinguisme, c'est une nécessité pour que les gens qui ne sont pas nés dans un pays de langue anglaise, puisse avoir le maximum de chances d'être traité de manière équitable. Sinon, on peut fermer l'ONU et n'avoir que des anglophones au sein de l'ONU. C'est aussi le multilatéralisme, un pilier du système multilatéral, parce qu'il favorise les échanges entre les États, il favorise les échanges entre les individus. Et comme l'a dit mon collègue et ami l'ambassadeur Ngassong, c'est un moyen de montrer qu'il n'y a pas une langue supérieure à une autre, qu'il n'y a pas des gens supérieurs aux autres, que tout le monde peut se faire entendre et s'exprimer. Ça permet le respect de la diversité culturelle. Et la diversité culturelle, elle est aussi importante que la diversité biologique.
La francophonie veille aussi à défendre évidemment la culture francophone et la langue française. Que faites-vous, Monsieur Naxung-Gefang, pour la promouvoir au sein des instances internationales comme ici à Genève?
Bien évidemment, action de plaidoyer au quotidien, mais également, comme je l'ai dit, au niveau de Genève, une action portée par le groupe des ambassadeurs francophones à travers des déclarations, n'est-ce pas, qui sont prononcées à l'occasion, n'est-ce pas, des grandes rencontres internationales pour saluer ou alors, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en exergue quelques inattentions qui sont observées dans le cadre du respect du multilinguisme ou alors des correspondances adressées à certains chefs d'institution pour pouvoir attirer leur attention sur quelques, je dirais, inattentions également ou manquements au respect, n'est-ce pas, de ces règles. Mais je voudrais également dire que dans la dynamique qui a été impulsée par la secrétaire générale, il y a eu une action concrète c'est la mise en place d'un dispositif de veille, d'alerte et d'action en faveur, n'est-ce pas, de la langue française, de l'usage de la langue française au sein des organisations internationales, mais aussi du respect du multilinguisme.
Et puis, Madame Perron, Centre linguistique de l'ONU Genève, vous travaillez, vous collaborez avec l'OIF justement pour mettre en valeur la langue française.
Oui, oui, bien sûr. Nous avons, et ce depuis 2018, si je me souviens bien, donc ça fait la quatrième année, collaboré ensemble pour célébrer donc, les journées de la langue française. Comme vous le savez, les Nations Unies ont placé les journées des différentes langues officielles au cœur de leur politique de sensibilisation aux langues. Et donc, à l'ONU Genève, depuis 2018, nous collaborons avec l'Organisation internationale de la francophonie pour proposer diverses activités pour les membres du personnel et les membres des différentes missions. Et cette année, nous ouvrons même les portes à l'extérieur, vu qu'en raison de la pandémie, l'organisation de cet événement aura lieu virtuellement. Donc, nous pouvons aussi nous adresser à plus large que les membres du personnel ici et les membres des missions diplomatiques ici à Genève.
Alors, on le sait, le multilinguisme coûte cher. Aujourd'hui, des coupes budgétaires dans l'ensemble du système des Nations Unies ont des conséquences importantes. Des économies sont réalisées dans le domaine de la traduction et de nombreuses réunions ne sont plus interprétées. Regrettez-vous, M. Rivasso, ces mesures et que faire pour qu'elles ne se pérennisent pas ?
Oui, je regrette ces mesures très vivement, bien sûr. La pandémie de la COVID-19 pose des problèmes organisationnels et ces problèmes concernent aussi le multilinguisme. Mais le multilinguisme est un impératif catégorique, comme on dirait, pour le système international. Je note aussi qu'un certain nombre d'organisations, l'OMS par exemple, se sont vite adaptées parce qu'il y a une nécessité de proposer des traductions dans les 6 langues officielles de l'ONU, voire plus, parce que nous devons être au plus près des populations. C'est ainsi que l'OMS propose des traductions dans d'autres langues même que les 6 langues officielles des Nations Unies. Le portugais, par exemple, pour citer une langue bien connue, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a 9 au total. Parce qu'il est nécessaire d'être au plus près des gens. Le multilinguisme est une nécessité. Je pense que des nouvelles technologies, par exemple comme l'intelligence artificielle, pourraient dans le futur nous aider à améliorer cette situation. Mais en attendant, nous ne devons rien lâcher.
Monsieur Naxon-Gefang, le fait que Genève, c'est une ville francophone évidemment, un des centres diplomatiques les plus importants au monde, est-ce que ce n'est pas le lieu idéal pour défendre davantage la culture francophone et l'utilisation du français, justement ?
Bien évidemment, Genève et les institutions qui y sont implantées doivent travailler à faire connaître, n'est-ce pas, l'impact de leur travail, n'est-ce pas, sur la vie des individus. Et si ce n'est pas fait dans la langue, n'est-ce pas, par la langue française, qui est la langue la mieux parlée par les populations, n'est-ce pas, de Genève, il va se poser un vrai problème, même qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, rejaillir sur la crédibilité de ces organisations dans ce temps où, comme nous le savons tous, le multilatéralisme fait face à de graves difficultés. Donc, il est important que la langue française soit valorisée et puis dépasse d'ailleurs, n'est-ce pas, le cadre simplement des institutions pour investir également des lieux culturels, pour proposer des programmes en français, en langue française, mais également organiser des activités qui valoriseraient, n'est-ce pas, la culture francophone.
Monsieur Rivasso, au-delà de l'utilisation de la langue, il y a une culture très anglophone qui se développe au sein du personnel des organisations internationales. Qu'est-ce que cela dit de la diversité culturelle ?
La défense du multilinguisme, ce n'est pas seulement la défense du français. Hein, parce que nous défendons, c'est vrai, les 6 langues officielles, mais au sein des 6 langues officielles, il y en a 5 qui ont besoin d'être défendues et une qui n'a pas besoin d'être défendue. Donc nous travaillons et nous essayons de travailler la main dans la main avec les hispanophones, les arabophones, les russophones, les sinophones. Deuxième constatation, il est vrai que pour des raisons historiques, le français a un statut un peu privilégié par rapport aux 4 autres langues avec qui nous travaillons, puisqu'elle est langue de travail. Alors est-ce qu'il faut que nous renoncions, comme les anglophones le demandent, à notre statut de langue de travail ? Nous ne le croyons pas, non pas parce que nous revendiquons un privilège par rapport aux 4 autres, mais parce que c'est la première ligne de défense du multilinguisme. Hein ? Et si on enlève le statut de langue de travail du français, il n'y a plus que l'anglais. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, en général, les hispanophones, les arabophones, les russophones et les sinophones nous soutiennent, en général, lorsqu'on défend le français dans le travail, parce qu'ils savent qu'à travers le français, c'est l'ensemble des cinq langues que nous défendons et que notre objectif final, c'est qu'il y ait six langues de travail et pas deux seulement. Ça doit être très clair. Qu'est-ce que cela dit de la diversité culturelle ? L'un des points importants pour assurer la diversité culturelle, c'est de s'assurer que tous les fonctionnaires des Nations Unies recrutés puissent parler au moins deux langues des Nations Unies. Parce que le problème que nous avons, il est très clairement avec les anglophones qui sont les seuls qui refusent de parler deux langues, qui ne parlent qu'une seule langue. Et ça, c'est inacceptable. Hein. C'est inacceptable et dans le cadre de nos discussions d'ambassadeurs francophones, nous envisageons des mesures claires pour faire comprendre aux différentes agences des Nations Unies à Genève que si l'anglais est privilégié par rapport, non pas au français, aux cinq langues de la multilatérale, qu'il faut qu'il y ait au moins deux langues parlées par un certain nombre de gens. Hein, il faut que tout le monde fasse des efforts. Si les anglophones veulent travailler pour le monde entier, ils doivent apprendre au moins une autre langue du système des Nations Unies. Hein. Et nous sommes tout à fait prêts à travailler avec des gens qui parlent deux langues des Nations Unies, qui ne soient pas le français.
Madame Perron, justement, vous organisez des cours de français pour les fonctionnaires des Nations Unies et bien au-delà pour les organisations internationales et les missions étrangères. Est-ce qu'il y a un attrait pour l'apprentissage du français ici à Genève ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un attrait très, très, très important et qu'on a vu croissant depuis, en tout cas dans nos inscriptions et dans les personnes qui se tournent vers nous pour apprendre le français et aussi les autres cinq langues officielles. On a vu une augmentation dans les cinq dernières années de plus de 50% de participation aux cours de français. Donc c'est de bon augure, c'est un bon signe. On remarque aussi que donc les personnes qui suivent les cours de langue, leur premier intérêt est d'abord d'améliorer leur français pour des raisons professionnelles. C'est identifié à 86% d'entre eux souhaitent donc apprendre le français pour cette raison-là. Une deuxième raison est l'intégration dans la vie locale. Donc le lien avec Genève, avec la France voisine, c'est un élément très important pour eux. Une troisième raison, et non des moindres, est également la socialisation avec leurs collègues. Ça, c'est un point essentiel parce que le français leur permet aussi d'avoir accès à toute une série d'informations, aux conversations de machines à café qui sont essentielles pour travailler en bonne entente et de façon efficace avec leurs collègues. Et enfin, la dernière raison est pour une raison culturelle. Donc c'est intéressant de voir aussi que le français, même s'il perd peut-être du terrain dans certaines réunions officielles, dans la langue de travail informelle et de socialisation de tous les jours au sein du contexte des Nations Unies, le français est bien présent et il est là.
Dernière question, Monsieur Rivasso. Vu le contexte géopolitique actuel, avec l'apparition des grandes puissances régionales qui revendiquent toute leur sphère d'influence au sein des organisations internationales, quelle sera la place du français et de la francophonie à l'avenir, selon vous ?
Moi, il me semble que l'évolution géopolitique du monde, avec la géopolitisation des objectifs du développement durable, elle ne peut qu'être favorable à la francophonie. Les pays francophones, aujourd'hui, 7 membres sur les 15 membres du Conseil de sécurité à New York sont membres de la francophonie. La sphère d'influence des pays francophones est importante. Et à mon sens, soyons très clairs, je suis persuadé que le 21e siècle, dans son deuxième ou troisième tiers, en tout cas dans sa seconde moitié, sera le siècle de l'Afrique, après la première moitié qui a été le siècle de l'Asie et le siècle dernier qui a été le siècle de l'Amérique et de l'Europe. Grosso modo, chaque continent a son demi-siècle. Hein. À mon avis, ça va être la deuxième moitié du 21e siècle, ça va être le siècle de l'Afrique. Or, l'Afrique, elle est à moitié francophone et elle devient de plus en plus francophone. Donc je suis persuadé que l'avenir est de notre côté.
Monsieur Daxong-Gefang, même question, votre vision de l'avenir de la francophonie au sein des organisations internationales ?
La francophonie a cet avantage de dépasser les simples groupes, même s'il y a toujours un intérêt quelque part, un bien fondé quelque part, parce que nous sommes sur les 5 continents. Vous avez vu en termes de perspective, c'est 715 millions de locuteurs en français d'ici 2050, ce qui veut dire que les perspectives sont plutôt, n'est-ce pas, bonnes. Toute chose qui est mise ensemble pourrait vraiment, n'est-ce pas, tracer de très beaux sillons pour la francophonie de l'avenir.
Eh bien, c'est sur cette perspective positive et optimiste que nous allons refermer cette discussion. Un grand merci à vous trois d'y avoir participé. Monsieur François Rivasseau, je rappelle que vous êtes ambassadeur et représentant de la France auprès des Nations Unies à Genève. Monsieur Georges Naxun-Gofang, représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie. Et Fabienne Perron, responsable du programme de formation linguistique au Centre de formation et de multilinguisme de l'ONU à Genève. On se quitte en musique avec la chanson « Tu sais », hymne officiel de la francophonie à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, avec Manu Dibango, Black M et Ina Moja. Et c'est la fin de cette édition. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français, bien sûr, ONU Genève. À très bientôt. Tu sais.